Hello amis auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Balade avec les mots. Moi, j'aime pas l'orthographe. Le podcast destiné à tous ceux qui sont fâchés avec l'orthographe. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'orthographe en France. En tant qu'ancienne institutrice passionnée par le sujet, j'ai fait de minutieuses recherches pour tenter de réaliser cet épisode avec le plus de clarté possible. Vous allez voir que c'est une histoire passionnante qui ne ressemble en rien à un long fleuve tranquille. Pour accompagner cet épisode, de très belles compositions originales de TKZ que je vous invite à découvrir. J'ai mis un lien vers son site web dans la description de l'épisode. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Les langues sont vivantes. Elles naissent, se développent, s'enrichissent d'autres cultures, connaissent des périodes de stagnation, de régression, de conflit, bref, vivent comme nous les humains. Donc, raconter l'histoire de l'orthographe, c'est aussi raconter notre histoire. Le français fait partie de la famille des langues romanes, c'est-à-dire issues du latin. Mais il est plus compliqué à écrire que d'autres langues de cette même famille, comme par exemple l'espagnol ou l'italien, qui, eux, ont un système d'écriture essentiellement phonologique. C'est-à-dire que la plupart du temps, chaque phonème correspond à un seul graphème et chaque graphème à un seul phonème. Le système français, lui, y brouille les cartes. On dit qu'il est opaque. C'est même un système plus graphique que phonologique. C'est-à-dire que de nombreux indicateurs de sens sont des signaux visuels qui ne s'entendent pas et ne se prononcent pas. Par exemple, les lettres qui rappellent l'origine latine ou grecque de certains mots, comme le P de loup, qui vient de lupus. Les combinaisons de lettres pour transcrire un phonème. Par exemple, la combinaison E-A-U pour faire le son O. Les lettres qui permettent de distinguer les homophones. Les homophones sont des mots de même prononciation, mais d'orthographe et de sens différents. On a aussi certaines désinences marquant le féminin ou le pluriel qui sont muettes. Dans la plupart des noms communs, la marque du pluriel ne s'entend pas. Voiture avec un S au pluriel, j'entends pas le S. Oiseau avec un X au pluriel, j'entends pas le X. On a aussi de nombreuses désinences verbales qui sont muettes. Par exemple, le verbe parler au présent à la troisième personne du pluriel, il parle. Déjà, on n'entend pas le S de il et on n'entend pas la désinence NT de parle. Pour résumer, selon divers chercheurs, et là je cite Evelyne Charmeux, qui a été enseignante-chercheuse à l'Institut National de la Recherche Pédagogique, quand elle évoque la langue française, je cite « L'orientation fondamentale de son fonctionnement est d'être une langue non pour l'oreille, mais pour l'œil, avec des signaux visuels pour aider à comprendre. » Depuis toujours, l'orthographe est un sujet qui déchaîne les passions. Entre partisans de l'orthographe phonétique, ceux qui veulent la simplifier pour qu'on écrive au son, et partisans de l'orthographe étymologique, où on se sert de l'origine latine ou grecque des mots, le débat fait rage. Il faut savoir qu'à partir du XVIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe et la Révolution, la connaissance de l'orthographe est un marqueur d'appartenance à une élite sociale et culturelle. Les gens de la haute société affichent ouvertement leur volonté de rendre l'usage et la compréhension de l'écrit inaccessibles à ceux qui ne sont pas lettrés, c'est-à-dire le peuple. Il faut donc que l'orthographe soit difficile. Faisons un petit survol historique pour comprendre comment les règles de l'écrit se sont peu à peu imposées. L'histoire de la langue française commence avec les invasions romaines de la Gaule par Jules César en 50 avant Jésus-Christ. Les dialectes gaulois se mêlent peu à peu à ce qu'on appelle le latin vulgaire ou populaire, qui était le latin parlé par les soldats et les commerçants romains, différent donc du latin classique littéraire. Avec la chute de l'Empire romain, en 476 après Jésus-Christ, et l'invasion de la Gaule par des peuples germaniques, la langue évolue encore, principalement sous l'influence des Francs, qui donneront le nom à notre pays. C'est ainsi que la langue romane, issue du latin mais clairement distincte de celui-ci, commence à exister à partir du 8e siècle et à s'écrire à partir du siècle suivant. Les serments de Strasbourg, qui signent une alliance militaire entre les petits-fils de Charlemagne en 842, actent le début de l'écriture de cette langue romane qui donnera le français. Jusqu'au XIIIe siècle, on n'écrit pas dans le but de communiquer. La communication officielle se fait par l'oral. On écrit pour soi. L'orthographe, dès lors, n'est pas vraiment nécessaire. Chacun écrit comme il veut pour pouvoir se relire, comme aujourd'hui on prend des notes. Mais à partir du XIIIe siècle, l'écriture devient un moyen officiel de communication politique, administrative et judiciaire. Il faut alors établir des règles, puisque les textes diffusés doivent être compris par ceux qui les reçoivent. On a recours au latin, puisque son souvenir est encore présent dans la mémoire collective, même vaguement. Le problème est que la langue romane comporte plus de phonèmes que l'alphabet latin. Alors, on va utiliser diverses stratégies. On emprunte des lettres à d'autres langues. On assemble plusieurs lettres ensemble. On ajoute des signes diacritiques, accent, tréma, cédille. L'arrivée de l'imprimerie, en 1477, va avoir un impact très important sur l'évolution de la codification de la langue. Les imprimeurs ont la bonne idée d'aérer les textes en séparant les mots. Tiens, on n'y avait pas pensé avant. En introduisant la ponctuation et en institutionnalisant l'usage des accents. Mais c'est aussi à eux que l'on doit l'absurdité de certaines graphies. Par exemple, quand il n'y avait pas assez de caractères de plomb E accent grave, les imprimeurs utilisaient le caractère de plomb E accent aigu. On se retrouve ainsi avec des mots comme « événement » qui s'écrit avec deux accents aigus alors qu'il aurait fallu un accent grave sur le second « e ». Tout ça parce qu'il manquait des lettres en plomb. C'est amusant ou énervant. Quoi qu'il en soit, les imprimeurs vont contribuer à fixer l'orthographe. La langue du roi, d'ailleurs, devient la seule à être admise pour l'impression de texte. Les divers patois seront exclus de ce privilège. Au XVIe siècle, une ordonnance du roi François Ier impose le français comme langue officielle écrite. On continue à fixer des principes pour l'orthographe. Ainsi, on rappelle que l'écriture des mots doit, autant que possible, être étymologique, rassembler les mots d'une même famille, distinguer les homophones, mais aussi rester le plus possible fidèle aux usages établis. Pas simple. Au XVIIe siècle, sous l'impulsion du cardinal de Richelieu, le principal ministre de Louis XIII, naît l'Académie française. Sa mission principale sera de fixer des règles pour notre langue, de composer une grammaire et un dictionnaire, ce qui prendra beaucoup, beaucoup de temps. 60 ans pour écrire le premier dictionnaire de l'Académie. On notera la volonté clairement affichée de faire de l'orthographe un marqueur d'une élite sociale et culturelle, comme c'est déjà le cas depuis le XVIe siècle. Ainsi, je cite l'Académie. La compagnie préfère l'ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes et est d'avis de l'observer partout, hormis dans les mots où un long et constant usage en a introduit une différente. Fin de citation. No comment. Pour autant, malgré le prestige de l'Académie, les querelles ne cesseront pas. Déjà au XVIe siècle, les débats étaient vifs entre les membres de la Pléiade, un groupe de poètes parmi lesquels les célèbres Ronsard ou Du Bellay. Ronsard, par exemple, soutenait le mouvement de simplification de l'orthographe lancé par les imprimeurs. Quant à un autre auteur célèbre du XVIe siècle, Rabelais, il avait lui son propre système graphique. Le grand bazar n'était donc pas prêt de se terminer, malgré les tentatives institutionnelles de réguler la langue. Parmi les auteurs militant pour une simplification, on retrouvera aussi Voltaire au XVIIIe siècle, qui souhaitait cependant une simplification raisonnable. La Révolution de 1789 est un autre moment important pour la langue orale et écrite. De nouvelles simplifications seront introduites en orthographe, mais l'essentiel n'est pas là. Les gouvernements révolutionnaires vont vouloir interdire les patois régionaux. Il s'agit alors d'unifier un peuple autour d'idées et de valeurs communes, de lutter contre les mouvements contre-révolutionnaires, et l'uniformisation de la langue en est l'un des moyens. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, le français était encore peu parlé. Il était surtout une langue écrite et la langue orale de la cour. Un Français sur cinq seulement le parlait. Au moment de la Révolution, un siècle plus tard, il y a encore moins d'un Français sur quatre qui le comprend. Or, pour diffuser les idées révolutionnaires, il est nécessaire que tout le monde comprenne bien la même chose. Pourtant, cette volonté d'imposer le français à l'ensemble de la population ne sera vraiment réalisée qu'au XIXe siècle, surtout sous la Troisième République, de manière assez violente ou autoritaire d'ailleurs. Ce qui montre bien qu'en matière d'évolution d'une langue, le facteur temps est essentiel, même si l'on souhaiterait le contraire. Le français moderne date donc du milieu du 19e. Depuis la loi de 1882, l'instruction est obligatoire. Et ça, donc, ça va vraiment sonner le glas des patois régionaux. Quant à l'orthographe, elle ne va quasiment plus bouger. Composante essentielle du fameux certificat d'études, instauré au niveau national par Jules Ferry, elle est élevée au rang de discipline noble de l'enseignement. Depuis, les diverses tentatives de réforme n'aboutiront à aucun bouleversement profond. Mais nous ne sommes qu'au début du XXIe siècle, et il est évident que l'orthographe évoluera encore, comme elle l'a toujours fait, puisque les langues évoluent en permanence, même si ces évolutions se font sur un temps bien plus long que celui de nos vies. En attendant, car il faut bien composer avec le réel, au-delà des querelles passionnées qui rappellent les débats sur l'apprentissage de la lecture, on peut s'interroger sur ce qui compte vraiment. Car s'il y a une chose qui doit et qui peut changer, c'est la façon d'enseigner l'orthographe. Citons une nouvelle fois Evelyne Charme. Le vrai problème de l'orthographe aujourd'hui est un problème de didactique et de pédagogie. Ce n'est pas l'orthographe qui est compliquée, c'est la manière de l'enseigner qui crée cette complication en faisant croire qu'elle renvoie à la prononciation alors qu'il n'en est rien. Autre chose essentielle à modifier, c'est la façon dont notre société considère l'orthographe. Elle ne doit plus être la statue du commandeur, figure menaçante et intimidante qui définirait la valeur intellectuelle d'un élève ou d'un individu. En revisitant l'histoire de l'orthographe, on comprend pourquoi elle est si compliquée et surtout comment, au fil des siècles, elle a été instrumentalisée pour servir les idéologies au pouvoir. D'abord la supériorité des élites religieuses et aristocratiques, puis l'idéologie révolutionnaire. Il faut redonner à l'orthographe sa fonction véritable, être une composante essentielle de l'écrit qui permet de le rendre accessible à la compréhension, de le faire circuler, de le rendre pérenne. C'est tout, et c'est déjà beaucoup. Voilà, notre seconde balade orthographique prend fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le troisième épisode dans lequel on commencera à revoir les notions importantes pour mieux maîtriser les règles orthographiques. Je vous remercie vivement de votre écoute. À bientôt!